Interview.
1 du jour.
Ananda, bonjour. Et Thierry, bonjour aussi. Vous êtes présent au sein de ces rencontres de l'écologie pour certainement vous enrichir, apprendre aussi ce qui existe. Vous êtes représentant de ce groupe de parole hommes créé il voilà 2 ans par Jacques de Dieu le Fit. Et vous en avez gardé cette persistance. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est ce groupe de parole d'hommes ?
Alors, c'est un groupe de partage. Donc actuellement, enfin depuis 1 an, il n'y a pas d'animateur ni de leader, encore moins de thérapeute. C'est un groupe complètement, disons, informel. Donc on se rencontre environ une fois par mois. Souvent, c'est de 18h à 20h, chez les uns, chez les autres. Et ce qui est important, c'est que c'est un groupe de parole dans la confidentialité de ce qui est partagé. Et voilà, donc on parle au jeu, c'est-à-dire que chaque homme parle de son expérience personnelle. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à justifier quoi que ce soit. Voilà, c'est un groupe de partage libre et on se partage le temps dont on dispose pendant environ 2 heures, 2 heures et demie.
Thierry, pareil pour vous, cela fait écho le propos d'un lambda ?
Oui, ça fait écho, surtout que je participe à un groupe d'hommes sur Chambéry depuis 3-4 ans. On est 8 et 9, et là, la proposition de Yannick et Ananda de participer à ce groupe de parole, ça a fait résonance chez moi, surtout que je viens d'arriver sur le Diwa. Il y a 3 semaines, donc ça tombe vraiment pile poil avec ce que je peux vibrer, et notamment rencontrer l'écologie, rencontrer et partager entre hommes des problématiques. Donc ça va commencer par une météo, et après on va peut-être prendre un sujet qui va émerger de cette météo avec quoi je viens. Et c'est ça me plaît depuis un moment. Et là, c'est vraiment, j'ai rencontré, là, même déjà en une demi-heure, il s'est passé déjà des rires entre nous, des connivences, et c'est... Et c'est vraiment agréable, ça m'intéresse.
Ananda, justement, ce groupe de parole hommes, quelle est sa nécessité selon vous ?
Alors, je pense qu'à notre époque, où, au niveau de la société, il y a quand même des enjeux assez importants, des sujets très sensibles. Voilà, sujet à polémique, des choses des fois assez graves qui se passent. Je ne veux pas être trop précis là, mais chacun peut-être pourra reconnaître tel ou tel événement qui s'est passé ces derniers mois. Et en fait, je pense que les hommes ont besoin en ce moment de... Enfin, moi, j'en ressens le besoin, en tout cas, personnellement, de parler, d'échanger avec d'autres hommes et de ne pas hésiter à se montrer dans notre vulnérabilité aussi, dans notre sensibilité à travers tous ces phénomènes de société, tout ce qui se passe dans le monde qui peut être des fois assez violent. Ça peut permettre aussi de se rencontrer, de partager, mais aussi de se rassurer, de se... Comment je dirais ça, de trouver un réconfort, disons, un soutien avec d'autres hommes qui partagent peut-être les mêmes valeurs, autour des valeurs humanistes. Donc dans le cadre de l'écologie au quotidien, c'est tout à fait notre place.
Quand vous parlez de valeurs partagées, est-ce qu'il y a parfois quand même de l'adversité dans les idées, dans ces réunions ?
Alors, c'est un groupe de partage, ce n'est pas un groupe de discussion, on n'est pas en train de débattre sur les grands sujets de société. Par contre, sur un phénomène de société, sur un événement, par exemple, de l'actualité, chaque homme est invité, par exemple, à donner son ressenti personnel. Ceci dit, on ne va pas argumenter sur le... On ne va pas comparer nos ressentis en laissant entendre qu'il y aurait un ressenti meilleur qu'un autre. Après, chacun va ressentir, va réagir par rapport à son histoire personnelle, sa sensibilité, sa personnalité. Mais voilà, c'est, comment dire, c'est dans le respect justement de la parole de l'autre qu'on se rencontre, qu'on peut être authentique. On sait qu'il n'y aura pas de jugement.
Thierry, vous-même êtes membre d'un groupe de parole à Chambéry. Ce groupe de parole, vous en connaissez un peu d'histoire aussi ?
Oui, bah oui, je connais bien l'histoire. C'est moi qui l'ai initié au départ. On était deux avec un copain, après trois. Et puis après, on a intégré des hommes et des amis essentiellement. Et on est 8 ou 9. Donc comme ça se passe là, le groupe de parole, en fait, c'est... Les groupes de parole, je ne sais pas si vous connaissez Guy Corneau, en fait, c'est lui qui avait initié un Québécois, qui avait initié un peu ces groupes de parole. Et le fait d'être entre hommes, on partage aussi des repas, mais aussi des échanges, des partages. Et aussi, on va jusqu'à aller marcher ensemble, par exemple en Corse. On ouvre un petit peu à d'autres activités. Le fait d'être entre hommes, c'est ce que disait Ananda, ça touche en fait. Moi, ça me touche en fait, personnellement. Là, j'ai vu tout à l'heure comme j'étais touché parce que j'ose exprimer des choses que je n'exprimerais peut-être pas, soit en public ou soit même en couple ou avec des femmes. Donc, notamment un sujet comme la sexualité, des choses comme ça, où ça va vraiment aller toucher à l'intime et je vais pouvoir parler de ça. Et donc du coup, bam, en vous en parlant, ça me touche. Merci.
À l'instar de ce groupe de parole hommes, il y a effectivement des réunions de femmes qui ont besoin aussi de se sentir à l'écart des hommes pour pouvoir mieux s'exprimer et partager aussi. C'est un peu cette idée par rapport à cette notion de sexualité, de son être aussi, de ses questionnements, de ses doutes.
Oui, je crois que c'est vraiment sain en fait, parce que ça vient de loin, de très loin des âges. Je vois dans les peuplades amérindiennes, etc., il y avait des hommes étaient entre eux, les femmes étaient entre eux, et ils faisaient de la chasse, et les femmes faisaient le feu, faisaient les tâches de la tribu. Mais après, ils se retrouvaient pour célébrer ensemble, et c'est là qu'on va trouver justement... pour moi, à l'intérieur de chacun, mais entre hommes. Et après, on peut aller se mélanger avec les femmes parce qu'on a pu exprimer émotionnellement ce qu'on avait sur le cœur. Et c'est parfait.
Il est important, semble-t-il, donc pour vous, cette notion de parole, parce que des réunions de groupes d'hommes peuvent revêtir divers aspects. Hein. On peut noter le sport, par exemple, mais aussi d'autres occupations, la chasse. Est-ce que il y a d'autres déclinaisons possibles aussi de ces occupations, de ces préoccupations ?
Oui, alors souvent, on commence par un tour de météo intérieur, c'est-à-dire chaque homme est invité à donner son ressenti du moment. Ensuite, à partir de là, parfois il y a un thème qui se dégage, parfois pas. Et je me souviens d'un thème d'un soir où ça avait été assez intense. Le thème s'était un petit peu imposé à nous, c'était la parentalité, le fait d'être père pour ceux qui avaient déjà des enfants et d'autres hommes qui n'en avaient pas et pourquoi ils n'iraient pas en avoir ou ils n'avaient pas pu en avoir. Et on a parlé de la parentalité pendant toute une soirée et ça nous a beaucoup apporté.
Voilà. Et d'être grand-père aussi.
Voilà, père et grand-père, effectivement.
Alors moi, je voudrais rebondir, par exemple, sur un sujet, par exemple, comme l'andropause, où c'est très peu connu par les hommes et on parle beaucoup de ménopause chez les femmes et l'andropause, c'est très peu connu et on n'a pas trop d'informations dessus. Donc du coup, ça on peut en parler, il y a des films justement qui circulent, il y a un groupe d'hommes de Grenoble, je crois, qui a fait un film sur l'andropause, et je ne sais pas exactement les références, mais en tout cas c'est entre eux, voilà, c'est quoi l'andropause, est-ce que je suis touché, est-ce que je ne suis pas touché, c'est des sujets d'actualité, quoi.
cela permet aussi peut-être de pouvoir se ressourcer, de se retrouver aussi soi-même, justement dans ce cap, arrivé à un certain âge, on goûte la vie différemment. Donc il y a aussi peut-être un moment d'égarement, et ça, ces groupes de parole permettent peut-être aussi de pouvoir se repositionner.
Oui, tout à fait. C'est repositionner. Ce que je vois là, ce que, quand vous me posez la question, c'est aussi un groupe où c'est bienveillant, et je peux déposer ce que j'ai à déposer, en fait. Il y a pas de, on sait que ça ne sera pas jugé, que ça ne sortira pas de là, et donc du coup, ça, c'est nécessaire pour moi.
Oui, il y a le fait aussi que l'on se rencontre régulièrement. Donc il y a les mêmes hommes qui se retrouvent. Alors, il peut arriver que tel ou tel homme ne soit pas disponible ce jour-là, mais la plupart du temps, ce sont les mêmes qui se retrouvent. Et donc ça crée un soutien mutuel assez fort, parce qu'on connaît de mieux en mieux nos histoires personnelles, nos personnalités, etc. Et donc, en fait, bon, actuellement, on est prêt à accueillir quelques hommes supplémentaires. Mais au bout d'un moment, au fil des mois, eh bien, en se retrouvant régulièrement, on apprend à se connaître, et puis on est de plus en plus en confiance. Voilà, la confiance va toujours en s'améliorant, et ça va toujours vers une profondeur plus grande dans ce qui est partagé.
Je vais terminer à savoir comment vous joindre si des personnes vous entendent et souhaiteraient participer à ces rencontres.
Moi, je pourrais laisser mon téléphone personnel, et puis prendre contact au niveau téléphonique, par exemple, poser quelques questions, voir si ça peut vous convenir ou pas.
Eh ben, si on peut indiquer un numéro, là, par exemple, ou je le noterai, sur la page de l'émission.
En passant par la radio, peut-être, oui.
Oui, d'accord. Donc j'invite les auditeurs à écouter l'émission au podcast, et vous y trouverez aussi les coordonnées. Eh bien, Thierry, vous vouliez rajouter autre chose ? Moi, j'avais une question. Chambéry étant une ville, ici, c'est plutôt le milieu rural. Est-ce que vous y trouvez une différence de cette approche de l'existence ?
Alors, pour l'instant, non, parce que je n'ai pas participé encore au groupe de parole. Mais ce que je veux dire, c'est que le terreau, c'est pas la ville et la campagne. C'est le fait d'être un homme et de pouvoir déposer... dans la bienveillance, voilà, c'est ça le terreau pour moi. Donc, et après, tout fait sens.
Ananda et Thierry, je vous remercie tous deux d'être venus au micro de RDWA pour nous parler donc de ces groupes de parole hommes, et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Experience interoptical difficulties. Baby. No, babe. Little boy, little boy, come on, tell me not the story of the pie-handed bill. It was a horseman in the town, see all the contacted bill. He was eating all the chicken in the south of the road. Never sacrificing himself, it was all for a brood. He went abroad, he visited Japan. Never seen another person in his life in a pain. Was a great shark. Had to sleep in a shack. Had to eat a duck. Impersonating Big Jack. Big Jack. Jack Black. Big Jack is a person of interest in the East. That's the way we feast. We feast, we feast. Eat a lot and never give back to the nature that produced the goods for our food. That's the way a Bickle Jagger story ever comes around. He was never fed a lobster in the county underground. Never sat on the bench right beside the Washington. He was on the bill of two, but it's canceled now.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Roland de Miller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à ces rencontres de l'écologie pour aussi proposer et solliciter un mouvement qui permettrait de créer une bibliothèque de l'écologie qui pourrait s'implanter éventuellement dans le Diwa. Alors pour cela, vous pourriez peut-être nous présenter aussi cette démarche, mais qu'est-ce qui vous a amené à concevoir cette collecte, cette collection d'ouvrages qui est de 50 000 ouvrages aujourd'hui, hein, donc qu'est-ce qui vous a motivé ?
Eh bien, c'est une longue histoire parce que je me suis engagé très jeune dans la protection de la nature, dès l'âge de 16 ans. Et quand je suis monté à Paris en 1967, j'ai tout de suite contacté les organisations, les associations de protection de la nature, et j'ai cherché à me documenter et à rassembler tous les ouvrages, le peu d'ouvrages qui existaient à cette époque, parce qu'il n'y avait pas énormément. Et peu à peu, de fil en aiguille, les thèmes, mes thèmes d'intérêt se sont élargis. J'ai élargi mes centres d'intérêt à l'ensemble de la connaissance et j'ai collectionné beaucoup d'ouvrages. À l'époque, dans les années 70, j'avais accès à énormément d'ouvrages et j'ai commencé à constituer peu à peu cette bibliothèque qui a grossi de quelques centaines, voire quelques milliers d'ouvrages à l'époque. Et ça n'a pas arrêté depuis donc 50 ans, depuis plus de 50 ans. J'ai constitué le fonds documentaire le plus riche, le plus important de France sur toutes ces questions, dans les différentes facettes de l'écologie, n'est-ce pas ? Le public, en général, ne connaît qu'une petite partie de l'écologie, mais là, j'ai rassemblé tous les ouvrages français et étrangers, autant que possible. On n'est jamais exhaustif, ça, il faut le savoir.
Qu'est-ce qui vous a amené justement face à tous ces ouvrages ? C'est votre activité professionnelle. Vous indiquez être écrivain-chercheur, bibliothécaire, historien, documentaliste. Tout cela, ce sont des activités que vous avez exercées au sein de collectifs,
oui,
d'institutions.
Je dis des institutions, pas tellement, mais enfin, j'ai eu la chance de travailler dans mes jeunes années. Comme j'ai eu la chance de travailler comme bibliothécaire, comme documentaliste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et c'est là où j'ai appris mon métier de documentaliste, j'ai appris l'interdisciplinarité. Parce qu'un sujet comme la conservation de la nature, ça touche à tous les domaines, c'est à cheval sur les sciences naturelles et les sciences humaines. Et on est obligé évidemment de se tourner vers la communication, vers le journalisme, vers le travail avec les médias. Donc on touche à tous les sujets et c'est ça qui est passionnant.
Vous aviez constitué un premier lieu, c'était à Gap, et donc là vous aviez pu déjà proposer à un public cet accès à ces ouvrages. Alors qu'est-ce qui s'est produit par la suite pour vous retrouver donc avec des palettes en quelque sorte de livres ?
Alors, j'ai pu en effet présenter dans un lieu public, dans un bâtiment de la ville de Gap pendant 7 ans, de 2002 jusqu'à 2009 inclus, j'ai pu présenter la bibliothèque de l'écologie dans ses 74 thèmes et ses 4 grandes divisions. Et alors, il s'est passé des choses, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais j'ai dû quitter la ville de Gap, j'ai dû faire déménager ce fonds documentaire, et c'est dans la Drôme qu'il a été accueilli. Et à l'époque, j'étais en pourparlers avec une communauté de communes pour la réinstallation de cette bibliothèque. Malheureusement, là non plus, ça n'a pas pu se faire. Et je suis toujours maintenant en recherche d'un lieu pour implanter cette bibliothèque. qui est d'intérêt public national.
Pour cela, vous indiquiez que le lieu Agap représentait une superficie de 500 mètres carrés. Est-ce que vous êtes toujours en cette demande de superficie? Et est-ce que ça, c'est aussi un obstacle? Parce que quand même, c'est pas évident de trouver un lieu de cette taille pour ce projet. Alors, vous lancez en quelque sorte un appel également?
Je lance un appel, alors qui est double, parce que soit ça peut être la réinstallation définitive dans une superficie qui permette cette mise en valeur, en effet, soit simplement un lieu de stockage provisoire de 200 mètres carrés et gratuit pour pouvoir stocker simplement en attendant une mise en valeur sur une superficie plus grande. Vous voyez, il y a donc deux objectifs, soit un objectif provisoire où les cartons restent sur leur palette, soit une ouverture des cartons et une mise en rayon, en rayonnage, pour rendre accessible. Mon objectif, c'est ça, à terme, de rendre ce fonds documentaire accessible au public.
La question de votre demande, c'est pourquoi la bibliothèque de l'écologie devrait s'implanter dans le Diwa?
Alors, pourquoi dans le Diwa? Parce que j'estime que c'est un terreau favorable, parce que l'ancrage démocratique de l'écologie est le plus fort de France. C'est dans le Diwa qu'il y a la plus forte sensibilité écologique et naturaliste, et que ce patrimoine peut être mis en valeur, en effet, par une collectivité publique. Enfin, il y a un public intéressé par cela. Je rappelle que l'agriculture bio est la plus forte de France, avec 50% des surfaces agricoles en bio, dans le Diwa. Ça, c'est un facteur non négligeable.
Alors, il existe aussi des fonds de soutien, de financement participatif également. Est-ce que vous avez procédé à
cette... Oui, c'est pas suffisant.
Il faut pour cela constituer au moins une association. Est-ce qu'il en existe une autour de ce projet?
Non. Il en a existé une dans le passé, mais elle a été dissoute. Non, il n'existe pas pour le moment d'association, mais peut-être devrais-je me tourner vers des fondations culturelles, le mécénat culturel qui pourrait aider les pouvoirs publics à se décider dans ce sens, n'est-ce pas?
C'est une demande que vous adressez au public du Diwa, de la Drôme, même peut-être au-delà. Sont vos moyens de vous joindre ou peut-être de présenter aussi ce projet à l'adresse du public? Est-ce que vous prévoyez des rendez-vous de temps à autre?
Alors, moi, je peux venir en parler. Je suis disponible pour faire connaître ce projet. Je souhaite mesurer l'intérêt des Drômois pour ce projet, voir si comment on pourrait concrétiser ce projet ici dans la Drôme, et si quelqu'un possède ou a connaissance d'un bâtiment, d'un lieu, ça serait un grand service à me rendre.
Alors, ces ouvrages du nombre de 50 000, on peut peut-être en parler rapidement. De quel type traite-t-il? Quels sont les auteurs? Et vous parlez aussi d'ouvrages anciens. Alors, pour vous, c'est un point crucial de cette collection?
Alors, il y a une richesse aussi bien dans le domaine des sciences naturelles, la botanique, la zoologie, et toutes les autres disciplines des sciences naturelles que dans le domaine des sciences humaines. C'est certainement la plus grande bibliothèque botanique de France. Et puis, il y a des spécificités qui concernent de près la Drôme, avec énormément d'ouvrages. Peut-être que c'est le seul endroit où il y a autant d'ouvrages sur les plantes aromatiques et médicinales, qui est un thème vraiment important pour la Drôme. De même qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur l'eau, la gestion de l'eau, qui est aussi un thème crucial pour l'agriculture et la vie des habitants dans la Drôme, n'est-ce pas ?
Alors, on peut vous retrouver également, comme cette manifestation des rencontres a dit, mais oui. Est-ce que vous allez aussi dans d'autres lieux festifs ou peut-être...
Suis libraire itinérant sur les salons et les foires. J'ai une longue expérience depuis plus de 15 ans. J'habite Gap, je rayonne avec un stand de librairie. Alors, le fond de librairie est différent de celui de la bibliothèque, c'est pas les mêmes ouvrages. La librairie n'est qu'un pâle reflet de toute la richesse qui est contenue dans la bibliothèque. Et je suis aussi écrivain, j'ai publié 8 livres, j'ai 3 métiers, vous voyez. Je suis écrivain, chercheur, conférencier, libraire et bibliothécaire, documentaliste. Et en tant que documentaliste, je retrace l'histoire de la littérature écologiste. Vous voyez, je suis un peu un historien. De cette littérature d'une immense richesse et j'en connais un peu les dessous, l'historique. Toute la pensée écologique contemporaine, ça me passionne. Ça me passionne parce que j'ai une vue un peu panoramique des différentes tendances, des différents courants, et notamment l'écologie profonde qui vient compléter l'écologie superficielle.
Vous parlez de cette bibliothèque ambulante. Et vous avez établi une nomenclature. Et
il y a 74 thèmes.
Et comment correspondre avec le public s'il y a une demande précise? Vous avez une adresse mail, je crois, déjà, pour opérer une demande, notamment.
Oui. Alors, en tant que libraire, mon adresse est infos, au pluriel, @librairiedelecologie.fr. Librairiedelecologie.fr. Et en tant que particulier, c'est-à-dire porteur du projet de la Bibliothèque de l'écologie, mon autre adresse est roland.demiller@free.fr. roland.demiller@free.fr. Ça, ce sont mes deux adresses de courriel.
J'espère que vous allez pouvoir aboutir à ce rêve. Est-ce que pour vous, il y a... quel est votre sentiment justement sur ce moment, cette époque que l'on vit avec peut-être un recul de l'écologie hein, au niveau décisionnaire, au niveau des États, l'international?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une vue réaliste de la société actuelle nous oblige à voir qu'il y a un grand recul environnemental au niveau de tous les décideurs économiques et politiques qui poursuivent leur course folle vers l'abîme sans se préoccuper des limites de notre planète, sans se préoccuper des impératifs écologiques. Et là, il y a une grande carence. Il y a des raisons d'être inquiet face à ces tendances actuelles de la société qui sont aussi des tendances antidémocratiques.
Roland Demiller, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Pareillement, au revoir.